Erev Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons traiter du Omer, de Sphirat HaOmer, et essayer de comprendre comment Akadosh Baruch Hu fait avancer son histoire selon les éléments du temps, c'est-à-dire cette notion de temps qui s'inscrit bien entendu avec la notion d'espace et celle des êtres, comme nous avons l'habitude de le répéter de nombreuses fois. Kefi she'asod hazeh mofia bayamim, she'metziut hayom hashmini omedet lemala migvulot hateva hameyuchas lasifra sheva. De la même manière que nous avons déjà vu qu'il y ait un secret au niveau des jours, où l'existence du huitième jour se trouve au-delà des limites du temps, de l'espace et de toutes les lois de la nature, qui, elles, ces lois sont référées au chiffre 7, eh bien, il en est de même pour les semaines. Car Shivat HaShavuot Shel Sphirat HaOmer, de la même manière, nous avons 7 semaines de Sphirat HaOmer, qui prépare Mechinot et Am Israël, qui prépare le peuple d'Israël, la Mifgash Im HaShavua HaShmini, à la rencontre de la huitième semaine, Shebereshito Nitna HaTorah. Cette huitième semaine, dont le premier jour de cette huitième semaine, qui n'est déjà plus dans le compte, car elle est au-dessus des sept, et au-dessus des sept, on ne peut plus compter. Ce n'est pas sous l'influence de la comptabilisation des choses, de la comptabilité des choses. Impossible de compter le huit. Le monde dans lequel nous sommes est toujours sous le signe du sept, même si on arrive à des milliards de milliards. Mais c'est toujours le côté sept. Le côté huit n'est pas dans le compte. C'est comme s'il était, en fait, un élément qui donne la vie à la possibilité de compter. Mais lui, on ne peut pas le compter. Donc en réalité, comme le jour de la brite, c'est pareil, ce n'est pas un jour qu'on compte, c'est un jour qui est au-delà. Justement pour relier le bébé qui vient de l'être, qui vient de naître à sa source, qui est justement au-delà. Donc si on faisait la Mila au septième jour, ça voudrait dire qu'on rabaisse le niveau d'Israël à être vivant sous l'influence des choses de ce monde. Ce qui en réalité couperait la possibilité à l'enfant d'Israël de pouvoir prendre des éléments de l'au-delà et de les traduire aux éléments de notre monde. Car quiconque n'a pas le lien avec ce degré 8, ne peut pas véhiculer ce message du 8 dans le monde. Donc la preuve que le peuple d'Israël fait partie de ce 8, c'est d'abord que il est lui-même relié à sa source par ce degré 8, au-delà du temps et de l'espace, et donc lorsqu'il y a des moments difficiles dans notre vie, nous l'avons vu dans l'histoire du peuple d'Israël, nous sommes capables de défier les lois de la nature. On vient de sortir d'Égypte, on a vu toutes les lois de la nature se plier littéralement devant le passage d'Israël. Les plaies qui n'ont aucun rapport avec la réalité, l'ouverture de la mer et bien d'autres choses qui sont en réalité des choses qui sont incompréhensibles à quiconque vit au degré du 7. Nous sommes de l'ordre du 8, c'est-à-dire de l'ordre de la Neshama ou du Shemen, de l'huile, qui flotte au-dessus de tous les liquides. Pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il a un rôle différent, celui de véhiculer les valeurs du 8 et au-delà, dans le monde du 7. Vous avez compris, ça c'est simple, c'est clair, on a déjà parlé de tout ça. Ce qui fait que, lorsqu'on a traversé les 7 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le premier jour du huitième semaine, de la huitième semaine, c'est le don de la Torah. On est d'accord? Vous comprenez donc que la Torah ne vient pas de notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne vient pas de notre monde? Elle n'est pas logique dans la logique humaine. Elle vient pour donner quelque chose d'une autre valeur, d'un autre degré, qui dépasse la valeur de l'intellect humain. Et par ce fait, elle n'est pas subjective, cette Torah, mais objective. Objective car elle vient de l'au-delà, elle vient des valeurs du moussard, de l'éthique divine, et non pas des conclusions humaines.
Comment dans ce cas-là on peut parler à...
C'est pour ça qu'il est une règle, d'Ibra Torah Kilshon Bnei Adam. Les sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a habillé la Torah dans des histoires humaines. Mais cela dépasse le côté historique. Le côté historique sert de vêtement, de véhicule, pour faire passer le message. Mais en réalité, pour véhiculer les valeurs de la Torah, on devrait se taire. C'est-à-dire que le silence, c'est en réalité le degré qui pourrait ressembler le plus dans notre monde au verbe d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne parle pas un langage humain comme nous. Akadosh Baruch Hu, son langage, c'est quoi? Moshe Yedaber. Moshe parle, lui c'est un humain. Veha Elohim Ya'anenu Bekol. L'Éternel lui répond avec un autre degré qui s'appelle pas Dibour. Ne tombez pas dans le piège de croire que ce que vous avez vu dans les films où on entend une voix céleste, « Je suis l'Éternel », c'est des bêtises tout ça. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle, c'est un col. Or, le col est quelque chose de très profond, qui, les sages nous donnent sa valeur numérique, c'est la même valeur numérique que le soulam. Autrement dit, le col est une échelle qui relie l'être à son essence divine. La chose la plus ressemblante à ce col divin dans notre monde, c'est le chauffard. On pourrait dire donc qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle à l'humain, il lui parle en forme de chauffard. Et nous sommes censés, en tant que peuple d'Israël, d'entendre ce chauffard. D'abord d'entendre, après chauffard. C'est pourquoi la première mitzvah de l'année, c'est tout simplement d'entendre. Mitzvah Hayom Rosh Hashanah, la mitzvah du jour, c'est le chauffard. Il n'y a rien d'autre. D'accord? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que lorsque Moshe entend cette prophétie, il la traduit immédiatement dans un langage humain. C'est-à-dire que Moshe a un traducteur intérieur qui traduit le kol en dibour. Ça veut dire que le dibour de Dieu n'est pas le dibour de l'homme, mais il descend, il s'habille dans un levouche qui est le langage de l'humain. C'est exactement ce qui se passe chez le prophète. Le prophète a besoin, avec la prophétie qu'il entend, une traduction simultanée de ce que cette prophétie veut dire. Sinon, cette prophétie ne veut rien dire. Parfois, on montre au prophète une marmite. Et il doit savoir ce que ça veut dire. S'il ne sait pas traduire, il dira des bêtises. Donc Israël a été créé avec la capacité d'entendre ce col et de traduire ce col en dibour jusqu'à ce que les nations du monde entendent à leur niveau ce qu'elles doivent entendre. Ok ? Et donc le peuple d'Israël, la Torah qui est en réalité la parole divine, la pensée, la volonté de l'infini béni soit-il créateur du monde, c'est de nous donner une Torah qui est du chiffre 8, qui vient donc de l'au-delà. Et on nous demande, Vous comprenez pourquoi il y a autant de livres dans la bibliothèque juive, de traduire simultanément cette Torah pour savoir comment expliquer, vivre selon cette Torah. Car dans le premier texte, dans la première compréhension du texte toranique, on ne peut pas réellement faire la Torah. D'où est-ce qu'on a sorti les halakhot pour mettre les tefillin? C'est même pas marqué dans la Torah. Il y a marqué « ce sera entre tes yeux ». On ne sait même pas ce que ça veut dire. On nous donne des codes, totafot. Personne ne sait ce que ça veut dire. « Zehaya le'ot aliyadecha ». Tu feras un signe sur ta main. C'est où la main? Ici, ici, les doigts, la hanche, le bras, quoi? Donc s'il n'y a pas une traduction de nos sages dans la Torah orale, de ce qui est écrit dans la Torah écrite, on arrive à n'importe quoi. Vous comprenez ça? Et donc, seul le peuple d'Israël sait traduire ce que Dieu a dit dans la Torah pour l'amener à une halakha humaine. Ça, on ne peut pas le tirer d'aucune Torah écrite. Jamais il est écrit dans la Torah écrite, lorsque tu boiras un verre d'eau, tu diras « She'akol niya bidvaro ». D'accord? C'est pas marqué ça. Comment est-ce que les sages sont arrivés à un nombre bien précis de mots, Baruch, Ata, Hashem, Elokenu, Melech Haolam, parfois Hashem qui déchaîne nous, et parfois non, chez Akol Niyabidvaro directement. Comment est-ce possible? D'où on sait qu'il y a une Amida avec tel et tel brachot? Pourquoi la combinaison des mots c'est comme ça? Pourquoi le Kaddish c'est avec tant de lettres et tant de mots et pas autre chose? Ça c'est impossible à tirer de la Torah écrite au premier degré. Donc il faut que les sages d'Israël, qui sont des prophètes dans leur nature, dans le Sanhédrin, sur 120 sages, il y avait 80 prophètes. On ne joue pas, c'est pas on dit que tout le monde était prophète. Non, celui qui n'est pas prophète ne l'est pas. On ne peut pas jouer avec ça. Donc ceux qui étaient prophètes, il y en avait 80, étaient capables de savoir que Dieu voulait réellement. C'est ça la prophétie, c'est pas juste de savoir ce qu'il va y avoir demain. Et donc la Torah est une grande prophétie. Toute la Torah est une prophétie. Et vous comprenez donc que la prophétie est obligée de venir du chiffre 8. Pourquoi? Parce que quelque chose qui viendrait du chiffre 7, eh bien, il serait toujours dans les limites de la nature. Or, le chiffre 8 domine toute la nature de ce monde. Et en réalité, au lieu de mettre le chiffre 8 en bas, il est en réalité à la source des 7. Le 8 est là. Et comment est-ce qu'on l'appelle ce 8? La source ou le puits des 7, Be'er Sheva. Donc le 8 est un Be'er Sheva. C'est-à-dire pas le 7, le puits à partir duquel je peux puiser les 7 degrés de monde d'en bas. Et le 7e degré va s'appeler Bat Sheva. Donc il y a Be'er Sheva et il y a Bat Sheva. Et normalement, si on n'a pas menti, si on n'a pas dévoyé, sorti de la voie, eh bien la Bat Sheva doit être exactement comme ce qu'il y avait dans Be'er Sheva. C'est clair? Ok. Hamishkan shayach le madrigat ayom hashmini. Un exemple, le Mishkan. Le Mishkan ne peut pas venir de ce monde. Vous comprenez qu'il est censé véhiculer un message qui vient de l'au-delà. Donc, par essence, il est tout entier 8. L'obirdi, ce n'est pas pour rien, hu nechnach bayom hazedafka, qu'il a été inauguré le 8e jour. Quel était ce 8e jour? Rosh Chodesh Nissan. Ça veut dire que dans l'année, nous avons des jours qui sont de l'ordre du chiffre 8 alors qu'ils sont dans notre monde. Et il faut les décoder, cela aussi. Il faut savoir lesquels ce sont, quels jours dans l'année ont ce degré du 8. Un autre jour, Yom HaKippourim. Et c'est pour ça que la Gemara et la Mishnah nous dit que 7 jours avant ce jour de Kippourim, il fallait prélever le Kohen Gadol. À partir du moment où on te dit Mafrishim Kohen Gadol Shiva Yamin Lifne Yom HaKippourim, ça veut dire que Yom HaKippourim est déjà en dehors du temps. Donc il est de l'ordre du chiffre 8. Comprenez? Et donc, C'est pourquoi les deuxièmes tables de la loi ont été données Yom HaKippourim. Alors que les premières tables ont été données Shabbat. Mais qui en réalité, le premier jour du huitième degré, et donc je viens de vous donner encore une clé, le Shabbat lui aussi n'est pas un 7 mais un 8. Vous comprenez? Et je peux continuer à développer ce degré, c'est très riche. Il faut comprendre quel est ce degré du chiffre 8 et l'étudier. Et les gens qui pensent que le Shabbat c'est le septième jour se trompent. C'est dans le septième jour que se cache un degré 8. Donc il s'appelle Yom HaShvi'i, le septième jour, mais qu'est-ce, comment il s'appelle lui? C'est plus un chiffre, c'est un nom, Shabbat. Donc je suis en train de vous dire que les chiffres par nature, ce n'est que de 1 à 7. À partir du moment où tu donnes un 8, ce n'est plus un chiffre, mais un nom. Et quand on veut limiter le peuple d'Israël pour ne pas qu'il joue son rôle, on lui donne que des chiffres et on lui grave des chiffres sur la peau. Pour dire, vous n'êtes pas les détenteurs de ce qui se passe au-delà. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, pour corriger, on a dit Yad Vashem. On doit redonner un nom à ceux qui ont voulu nous détacher du nom pour nous laisser dans des chiffres. Donc les chiffres et les lettres, ça vient de chez nous. D'accord ? Et les lettres précèdent les chiffres. Attention. C'est parce qu'il y a lettres qu'il y a chiffres. Autrement dit, valeur numérique peut-être même de 7 lettres. Le bête égale 2. Mais pas 2 égale bête. C'est la lettre avant le chiffre. Nous avons un nom et nous avons un chiffre. Et quand on compte le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu fait attention de bien dire à Moshe de les compter Bemispar Shemot. Il n'y a pas marqué Bemisparim. C'est-à-dire que tu dois savoir combien il est et comment il s'appelle. Si tu as oublié son nom, il y a un problème. Il est devenu un chiffre. Et s'il est devenu un chiffre, il est déjà soumis au chiffre 7, sous-entendu, tu n'es pas représentant de l'au-delà.
Qu'est-ce que... Pour les deuxièmes tables, ils ont un niveau... Je croyais qu'elles avaient un niveau moins important que les premières tables. Et vous avez dit qu'elles ont été données à Yom HaKippourim, et c'est Shabbat, Shabbat, donc c'est pas un niveau qui est plus élevé...
Que quoi? Que la huitième semaine du Hormet?
Non, par rapport...
Mais si, ça c'est les premières tables.
Ok.
C'est le don de la Torah, le premier don de la Torah, pas les tables, le don de la Torah. Il a été dit quand? Oui, mais quel degré? La huitième semaine. Donc c'est la même chose. C'est exactement pareil. À la seule différence, c'est que les deuxièmes tables sont plus humaines que les premières. Les premières sont complètement divines. D'où l'incompréhension de l'homme. Donc il fallait briser en fait ce degré, pour descendre à un niveau un petit peu plus humain, où l'homme participe un petit peu, ne serait-ce que en apportant la matière, c'est ce qu'a fait Moshe, alors que les premières tables, même la matière était une matière divine. On ne comprend même pas. À la fin des temps, les deuxièmes tables vont retrouver les premières tables. Il va falloir les deux. Les premières tables, c'est ce qu'on appelle le Eitz Chaim. Les deuxièmes tables, c'est Eitz Hada'at Tov Vera. Nous sommes aujourd'hui dans Etz Hadaat Tov Vera et nous devons remonter vers Etz Hachaim. Ok.
Est-ce que
c'est
Shabbat?
C'est aussi chez Zéhi Beivrit, on y peut continuer.
Il y a le Shabbat et il y a Yom chez Kulo Shabbat. Alors le Kulo Shabbat, c'est le 8.
C'est la même chose, c'est comme Shabbat.
Et Shabbat, c'est le
8. Non. Yom HaShvi'i, c'est Shvi, c'est Mispar. Yom Shabbat, c'est Shem. Shem, c'est des Hachmoné. Et Yom Shekulo Shabbat, ça veut dire un temps où on vivra complètement que dans ce degré-là. Mais c'est toujours le 8, c'est pas le 7. Oy va avoy. Si Yom Shekulo Shabbat, ça veut dire que si le Shabbat, comme tu viens de dire, c'est le 7, alors Yom Shekulo Shabbat, c'est tout du 7. Chas v'shalom. Au contraire, ça veut dire que le Shabbat est déjà un 8. Yom HaShvi'i, c'est un chiffre. Certes, c'est le 7. c'est le septième jour, à l'intérieur duquel se cache la Neshama. Donc, certaines personnes qui ne vivent pas le Shabbat comme il faut, vivent au degré du septième jour. Pas pareil. Ils arrivent au septième jour, mais ils ne font pas le Shabbat. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à grimper au chiffre 8 qui se cache à l'intérieur du septième jour. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et si seulement tu grimpes au huitième degré pendant le Shabbat, là tu as fait ton Shabbat. La Asot est un Shabbat, c'est autre chose. Donc beaucoup de gens pensent qu'ils font Shabbat parce qu'ils ont arrêté, parce qu'ils ont chômé. Mais en réalité, ils sont encore dans le chiffre 7. Le Shabbat n'est pas seulement un chômage, puisque le texte nous dit clairement, mais les gens ne l'entendent pas, « La Asot est à Shabbat ». Je dois devenir actif le Shabbat. Alors comment je peux devenir actif dans un jour qui est complètement passif, où on me demande de ne rien faire? C'est ça tout le secret. Mais si tu ne fais rien, et c'est ça ton Shabbat, ne rien faire, tu n'as pas fait Shabbat, tu as vécu dans le septième jour. C'est pas pareil. Donc il faut faire quelque chose le Shabbat. Il faut toucher au huitième degré. Il faut le caresser. Et si ce huitième degré ne t'a pas pénétré pendant le septième jour, tu as passé toute ta vie à fêter des septièmes jours sans jamais goûter au Shabbat. C'est-à-dire, il faut faire attention à ça. Hamishkan shayach la madriga shel hayom hashvi. Donc le Mishkan, c'est le huitième degré. Donc, c'est pour ça qu'il a été inauguré le huitième jour. Le huitième jour, en l'occurrence, c'était Rosh Chodesh Nissan. Peu importe. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'arrive à Rosh Chodesh Nissan, je dois savoir que ce n'est pas un jour normal. C'est un jour qui est au-delà. Donc si c'est un jour qui est au-delà, c'est le premier du mois. Donc tout le mois est au-delà du chiffre 7, on est d'accord? Puisque Rosh Chodesh, c'est déjà un 8. Donc tout le mois, c'est du 8. Même. Donc tout ce qui s'est passé pendant le mois de Nissan est de l'ordre du chiffre 8. Donc la Géoula d'Égypte était surnaturelle. C'est tout. Alors que la dernière Géoula, ça va être toujours de l'au-delà, mais qui s'habille dans la nature, dans le 7. C'est donc plus difficile de déceler Dieu.
Donc dans quel mois?
IA. D'accord? Achar prishatam shel Aaron ubanav lemeshech shivat hayamim shekadmu lo. Et là aussi, avant de rentrer dans le Mishkan, on demande à Aaron et à ses enfants de se préparer pendant 7 jours. Donc les 7 jours sont des préparations, des préparatifs au 8e degré. Vous comprenez maintenant l'importance de Sfirat HaOmer. Nous avons 7 semaines de préparation pour toucher le huitième degré, c'est le don de la Torah, la fête de Shavuot. Ça tombe pile au chiffre 50. Est-ce que nous comptons le chiffre 50 dans le Sfirat HaOmer? Et pourtant la Torah nous dit, Usfartem lachem, chamishim yom. Shabbat Shabbatot, il y a marqué chamishim yom. C'est dans le texte. Alors pourquoi on ne le fait pas? J'ai donné la réponse au début de mon cours. Le chiffre 8, comme le 50, n'est pas dans les comptes. Voilà. Impossible de compter le chiffre 8, donc impossible de compter le 50, puisque 50, c'est 7 fois 7 plus 1. Donc c'est impossible de compter. C'est faux. Donc il faut donner un nom. Shavuot. Et qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Qu'est-ce qui se passe à Shavuot? C'est la royauté d'Israël qui se dévoile, puisque c'est la Hiloula de David Amelé. Donc qu'est-ce que c'est que la malchoute d'Israël, la royauté d'Israël? C'est un chiffre 8 qui a été atteint parce qu'on a corrigé en nous 7 degrés au préalable. Prisha zo haita be'etzem begeder histaglut la meimada elyon halal. Donc qu'est-ce que ça veut dire quitter, sortir du tabernacle, se préparer pendant 7 jours? Mais tout simplement, c'est se mettre au niveau du 8 pour ne pas que le jour 8 arrive et que tu meurs. Et pourquoi tu pourrais mourir? Parce que le chiffre 8 est tellement élevé en valeur de lumière que quiconque n'est pas à sa hauteur, eh bien il est brûlé littéralement. Donc il y a un problème à Shavuot. Donc qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un pour ne pas le brûler à Shavuot? On l'envoie dormir. Donc il dort tout seul, il n'a pas besoin de l'envoyer. Il peut venir au cours et il tombe. C'est à Kadosh Baruch Hu qui lui dit, dors mon fils, il vaut mieux que tu dormes maintenant parce que c'est le chiffre 8, il va te brûler. Et quand vous voyez dans des yeshivot ou dans des endroits des Talmidei Chachamim qui tombent de sommeil, c'est pas parce qu'ils ont sommeil seulement, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu les protège de la trop forte lumière du cours qu'ils sont en train d'entendre. C'est pour ça que les femmes ne dorment jamais. Ce sont des mutants. Elles sont capables de grimper à n'importe quel chiffre et rester éveillées. Les mecs, là où tu les mets, en 10 minutes, c'est fini. Là, je... Aïta ve'esem begeder istaglut la meimada ilion anal derech prishata mikol inyane ha'olam hazeh. Donc il fallait préparer les Kohanim à quelque chose qui est de l'au-delà. Shivat ha-shavuot shel yemei ha-tfira, Sfirat ha-omer. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe dans Sfirat ha-omer, ça va devenir très intéressant, écoutez bien. Hem tam sitam. Alors maintenant je vais vous élargir toute la palette. C'est mon métier. Vous avez les 7 semaines de Sfirat ha-omer qui correspondent à tous les millénaires de la création du monde. Donc en réalité, Sfirat ha-omer est en potentiel toute la création du monde. Donc Sheshet alfei shanim shel kiyum ha-olam. Les 6000 ans, la Gemara nous dit que le monde existe pour 6000 ans. Ces 6000 ans, eh bien, ces 7 semaines s'intègrent dans les 6000 ans de la création. Vous comprenez que ces 6000 ans de la création dans lesquels nous sommes aujourd'hui, vous vous rappelez dans un cours précédent, c'est toujours le Yom Ha Shvi'i d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes encore dans son 7e jour. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un verset qui nous dit « Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom HaShvi'i ». C'est-à-dire la Torah n'a pas terminé ce verset comme elle a dit pour chaque jour.
Mais elle ne pouvait pas, si c'était Shabbat.
Pourquoi elle ne pouvait
pas? Elle pouvait pas le
nommer. Et si c'était terminé, bien sûr, puisque dans la Torah même, Akadosh Baruch Hu nous dit « Vayehi Bayom HaShmini ». Alors comment on est passé au chiffre 8 à un moment donné, sans avoir terminé le chiffre 7? Ça veut dire quoi? L'histoire dans laquelle nous sommes encore dans le 7e jour d'Akadosh Baruch Hu, mais de temps en temps, il nous donne des petits clins d'œil de ce qui se passe dans le 8e degré. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais... Allez, athlète, regardez, on va rentrer. Mangenon Kazé, donc ce circuit, ce secret, Choser ben Etzel Ayechidim ben Bahistoria Kula. C'est le même pour les individus que nous sommes, et pour l'histoire complète. C'est-à-dire nous avons toujours 7 degrés qui précèdent un 8e degré. Et nous devons tous, autant que nous sommes, nous préparer à ce 8e degré. Exemple, encore un, pour ne pas vous laisser dans l'espace, le mariage. Ceux qui ne se sont pas préparés au mariage convenablement par ces 7 degrés, eh bien leur mariage n'est pas réellement solide, ils boitent. Parce qu'il n'y a pas eu cette préparation, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on était dans un autre système, parce qu'on était loin de tout. Et même pendant le mariage, on fait combien de brachot? Pas du tout, 49. Puisqu'il y a les Sheva brachot pendant Sheva Yamim. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est les Sheva Kafoul Sheva, 7 fois 7? Nous avons 49 degrés pour dire qu'en réalité le mariage est de l'ordre du chiffre 8. Mais ceux qui se marient dans le chiffre 7, le mariage ne se termine pas au moment où on s'est marié.
Non.
Ça fait que commencer. Je suis en train de te répondre. Le mariage n'est pas terminé le soir de la choupa.
Vous dites vous préparez avant le mariage.
Eh bien, c'est pour ça que je te dis, le mariage n'est pas terminé pendant la choupa. C'est pour ça que les gens qui disent c'est le plus beau jour de ma vie se trompent. Ça doit être en réalité le premier jour le plus bas. Et après, c'est monté, 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 monté. Si c'est le plus jour, beau jour de ta vie, c'est qu'après, c'est naze. Eh oui. Donc, Nitsul Ameimad Ashvi Karaoui. Je suis en train de vous casser tous les mythes. Hein. Quel, quel? Alvaï. 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 Qu'elle connaisse son mari et que le mari la connaisse. C'est pas parce qu'ils ont un rapport qu'ils se connaissent. Nitsula Meimad Ashvi Karaoui. Donc il faut réellement travailler sur ce chiffre 7. Vetikuna midot atachtonot ashayachotlo. Et je dois corriger tous les midot qui m'appartiennent. Safou il est ashvi amikocho alkol yemot ashana kula letova. Et si je fais ça pendant les 7 semaines du Homer, puisque nous sommes pendant le Homer, ça va s'écouler, se déverser sur tous les jours de l'année, puisqu'en réalité, ces 7 semaines sont la source de tout, et de l'année, et de 7000 ans, des 6000 ans avec le Shabbat, de tout l'univers. Donc nous sommes dans 7 degrés. Chesed, premier, Gevura, deuxième, Tiferet, troisième, Netzach, quatrième, Hod, cinquième, Yesod, sixième, et Malchut, septième. Ok, alors maintenant on va traverser un par un. À mon avis, on ne va pas dépasser ce stade du cours, comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Hat'ama nifla'a. Alors maintenant, regardez. Un secret extraordinaire. Yesh ben seder asfirot she'anu mechavnim alehem asfirot besfirat ha'omer. Donc si je prends toutes ces sfirot-là, je sais exactement où je me trouve. Par exemple, hier soir, nous avons compté combien ? 22 jours du Homer. Oui ? Donc c'est 3 semaines et 1 jour. Donc je suis ici déjà. Donc Chesed du Netzach. Pas Chesed Netzach Sheba Chesed. Chesed Sheba Netzach, parce que je suis dans la première journée de la quatrième semaine. Donc qui est le patron dans cette semaine ? Le 4. Le Netzach. Vous avez compris ? Première semaine, c'était le Chesed. Deuxième semaine du Homer, c'était la Gvura. Troisième semaine, Tiferet, et ainsi de suite jusqu'à Malchut. Ben Ameoraot, c'est la Yamim. Alors, nous allons voir maintenant si Akadosh Baruch Hu a utilisé le même système, puisque c'est le créateur du monde et c'est le patron, donc il connaît les Sphirot bien avant nous. Donc, est-ce qu'il nous a fait une histoire avec des événements historiques correspondant à ces Sphirot? Eh bien, regardez, attachez vos ceintures, c'est magnifique. Donc, première semaine du Homer domine la Sphira du Chesed dans le monde. Lachen, c'est pourquoi, Miteva Advarim, naturellement, Chalbo Chaga Pesach, est arrivée la fête de Pesach. Pourquoi la fête de Pesach est dans la première semaine du Homer? Je vous ai dit tout à l'heure, Pesach était un miracle qui a été donné gratuitement au peuple d'Israël. Donc c'est une bonté divine qui n'a rien demandé, sauf de dire présent, je sors. Tous les miracles venaient, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Donc, Metsayen et Chassadav shel Hashem Itbarach be'ma'alach Geulat Israël mi'Mitzrayim. Donc on voit la bonté divine, incroyable. On passe à la deuxième semaine. Bashavu Hasheni sholet et ba'olam midat ha'gvura. Deuxième semaine, il faut quelque chose qui est très fort, parce que c'est la puissance. La reine Beshavuazé, Khal Yom Azikaron la Shoah et la Gvura. Incroyable. Cette deuxième semaine, dans l'histoire, nous allons voir un jour qu'il y a une journée qui s'appelle Yom Azikaron la Shoah et la Gvura. Bah, vous allez me dire, c'est tous des kabbalistes, quoi. Même ceux qui ont inventé ce nom. Non. C'est tout simplement de la prophétie. Donc ils ont appelé ça Yom HaGvura, parce qu'il y a ici quelque chose qui était difficile, il y a des dinim, mais en même temps qu'il y avait un désir de s'en sortir. Donc il faut être gibo. Troisième semaine, Beshavua Shlishi Mitbarer, Ki Malchut Israël Chazra, Tiferet, qu'est-ce que c'est Tiferet, l'équilibre? Donc qu'est-ce qu'on doit avoir pour être dans l'équilibre? Un état. Donc Yom Ha'atzmaout, un jour dans l'histoire, le jour de l'indépendance, comment tu peux être indépendant quand tu es au centre? Or, la Sphira de Tiferet est le centre de tout l'édifice. Ça veut dire que si tu ne comprends pas ce centre-là, tu n'es pas libre, car si tu es dans une extrême ou dans une autre extrême, tu ne peux pas être dans la libération de l'être, ni dans la souveraineté de l'être. Comment est-ce que le Rav Kook a appelé Médinat Israël, qui n'a jamais vu en tant que Médinat, puisqu'il est mort avant, 15 ans avant, il a vu la terre, mais il n'a pas vu la Médina. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien je devais faire des explications pendant tout ce Shabbat et tout le Shabbat dernier et toute la semaine à des gens qui ne comprenaient pas la différence entre l'État et la terre. Incroyable. Ça paraît tellement simple. Il y a la terre d'Israël et dans la terre d'Israël, il y a l'État d'Israël. C'est pas compliqué. Eh bien, les gens, pour eux, c'est de la folie. J'ai été dans un cours, le rav, il est vachement sioniste, il a parlé de la terre d'Israël. C'est pas du sionisme, ça. Parler de la terre d'Israël, tu peux parler de la terre n'importe où dans le monde. Tout le monde parle de la terre d'Israël. Mais de l'État d'Israël, Allah ista. Ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ne confondez pas vaseline et aspirine. Donc, Tif Eret, c'est en réalité Yom HaAtzmaout. Comment est-ce que le Rav Kook a appelé Medinat Israël? Yesod qui sait Hashem Baolam. Pas plus que ça, pas moins ça. C'est le fondement du trône de Dieu dans le monde. Incroyable. Ça veut dire que depuis le jour où nous avons créé l'État d'Israël, Dieu a une chaise. C'est pas beau ça? Une chaise. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Trône, en hébreu, qui sait? Qui sait? Qui sait c'est quoi? C'est Kaf Samech. Avec un Aleph qui sait. Comme ça on écrit qui sait. D'accord? Ça veut dire que les quatre lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, je ne peux pas l'écrire donc je mets des H, Yud, Ke, Vav, Ke, tant que nous n'avons pas le dévoilement dans les deux dernières lettres, puisque les deux dernières lettres sont relatives au monde d'en bas, eh bien nous n'avons pas non plus le Aleph. Parce qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a pas de trône. Vous comprenez? Donc il est au-dessus du trône, il ne peut pas être sur le trône. Comment on appelle au-dessus du trône? Métatron, c'est l'un des anges. Métaphysique, Métatron. Je rigole pas. Maintenant, quand vous êtes le Shabbat à la synagogue, et vous faites le Moussaf, vous criez dans la Chazara de Moussaf, « Keteritenu lecha ta 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 » et après vous dites « Aïe, mais comme que vos dole arizo. » Aïe, qu'est-ce que c'est aïe? C'est pas un bébé qui voulait dire aïe, mais il n'arrive pas. Ou aïe, ça suffit. Okay? Non, aïe, c'est aleph yudehe. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver Akadosh Baruch Hu parce qu'il manque le kes et il manque le vav et le he. C'est-à-dire sa mère, vav, kav, he, souka. Il manque une souka pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc quand je demande à Yé, je dis à Akadosh Baruch Hu, je suis là pour te réceptionner. J'en ai marre que tu sois un volatile. J'en ai marre que tu sois toi, Akadosh Baruch Hu, en exil. Et pourquoi Dieu est en exil? Parce que les Juifs le gardent là-bas, le maintiennent là-bas. Quatrième semaine, Bashavua Revi, Sholet et Bayekum Svirata Netzach. Quatrième semaine, la semaine du Netzach. Netzach l'éternité. Qu'est-ce qui s'est passé la septième semaine, la quatrième semaine? Bohanu Metsaimim et un Netzach Sheba Netzach Midato Shel Moshe Rabbeinu. Eh bien, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est dans ce degré de Netzach. Donc, à chaque génération vient un libérateur qui vient nous montrer les valeurs de l'infini, et donc de l'éternité, Netzach et du Nitzachon. Qui c'est qui est né le jour où Moshe Rabbeinu, le jour de Moshe Rabbeinu dans Sfirat HaOmer? Herzl. Ah là là, encore Dieu, il nous fait des bêtises comme ça. Le Herzl est né au moment même où nous appuyons sur le Netzach du Netzach qui appartient à Moshe Rabbeinu. Sous-entendu, quand j'ai eu un Goël, un libérateur dans la première Géoula, eh bien l'un des libérateurs de la dernière Géoula va s'appeler Herzl. Au moment de son enterrement à Herzl, qui a parlé? Le Rav Kook. Et qu'est-ce qu'il a dit de Herzl? Que c'était Mashiach ben Yosef. Pas moins que ça. Qu'est-ce que c'est Mashiach ben Yosef? Celui qui est capable de se battre. Regardez, c'est incroyable. Comme lui, comme Moshe, ont tout fait pour l'État, mais ne sont jamais rentrés. C'est pas beau ça? Veyom hula detos el hersel, José à Medina. Donc il a vu, il a prévu l'état sans jamais le voir. Donc ils ont un dénominateur commun, c'est la neshama rédemptrice qu'ils avaient tous les deux. Cinquième semaine, Hod. Qu'est-ce que c'est le Hod? Non. Hod, c'est la première sphira, je ne peux pas vous la dessiner maintenant, qui déjà commence à avoir du souci pour qui? Pour la Malchoute. Ça veut dire qu'elle commence à s'occuper des sphirotes d'en bas. Jusqu'à Hod, on s'occupait encore des étages supérieurs. À partir de Hod, on commence à s'occuper des étages d'en bas. Donc, où est-ce que commence réellement la Malchoute à se réaliser? Dans Hod. Et dans quelle sphira de Hod? Dans Hod du Hod. Vous avez compris? C'est-à-dire dans le cinquième jour de la cinquième semaine. Et qu'est-ce que c'est que ce jour-là? Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai vient dans cette sphère de Hod parce que son premier souci, son seul souci à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la royauté d'Israël, la Malchoute. Et tout ce qu'il a fait là-bas, et qu'il s'est sauvé, et qu'on a voulu le mettre en prison, et qu'on a tué les autres, c'est parce qu'il était un guerrier et qu'il voulait fonder Médinat Israël en son temps. Comme ça n'a pas marché, il a tout plié dans une boîte qui s'appelle le Zohar. Il a tout fermé dans une boîte de conserve qui a marqué Zohar à Kadosh, n'ouvrir qu'en l'an 2000. Période d'Odel, elle est bien après dans l'histoire, et elle vient par la mort des élèves des 12 000. Non, 12 000. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a marqué 12 000 Zugim Talmidim. Il n'y a pas marqué 24 000 dans la Gemara. Il y a marqué Shtem Esre Elef Zugim Talmidim. Ça veut dire que ce sont 12 000 couples. Alors, chez vous, ça fait 24 000, mais chez moi, non. Si la Torah voulait dire 24 000, elle aurait dit. Si elle dit 12 000 couples, c'est qu'il y a une raison. Ne déforme pas les paroles de nos sages. Sinon, tu ne peux pas étudier la Torah. Ça change tout. Parce que leur problème, c'était un problème de couple. Entre les élèves. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de kavod l'un avec l'autre. Donc, Bashavua Khamishi, Ameyuchat le Sfira Tahot, עוסקים אנו במדרגות המכינות אותנו למימוש הערכים העליונים בעולם הזה. ביום המיוחס לספירת הוד שבהוד, מציינים אנו את יום ל"ג בעומר, יום ההילולה של רשב"י, זכותו יגן עלינו אמן, הקשור להכשרת עם ישראל לגאולתו ולגאולת העולם דרך גילוי תורת הסוד האחדותית. כמו יש קילפה, יש קילפה, פור פובוח מנטניר למלכות אונפלס, קילדים וולף, les secrets. Dévoilement des secrets de la Torah, c'est apparemment, Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut lui faire confiance, d'accord? Si je veux préparer la royauté d'Israël, qu'est-ce que je dois faire dans le monde? Dévoiler les secrets. Pourquoi? C'est un chiour à part entière pour l'Agba Omer. La semaine prochaine, Blineder, dimanche, puisque l'Agba Omer c'est jeudi. Bashavu Ashishi, sixième semaine, Ameyuchas le Sfirat Hayesod. Et là, on arrive au fondement. Bien entendu, chacun d'entre eux a un personnage correspondant dans la Torah.
Oui.
Ron, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc, Yesod, Yosef HaTzadik, Anu Metzayinim et Yom Ha'ilula shel Ramchal. Incroyable. Dans cette sixième semaine, le Ramchal, lui, il est venu se caser aussi. Akadosh. Beyom HaMakbil et Yesod Shebe Yesod. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a décidé, je dis bien décidé, de quitter ce monde le jour du Hod chez Bahod, eh bien la même chose, Ramchal qui est venu terminer le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est un couple, vous le savez ça. Rabbi Shimon Bar Yochai est venu donner ce qu'on appelle Maase Bereshit, et le Ramchal vient expliquer Maase Merkava. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai s'occupe du début de la Torah. Il prend le mot Bereshit et il le développe, parce que dans ce mot, tout est écrit. Et le Ramchal, qui termine l'exil, va s'occuper du dernier mot, Israël. Dernier mot de la Torah, c'est Israël. Donc on prend que les deux mots, le premier et le dernier, c'est Bereshit Israël. Voilà la Torah. Tu as compris ces deux notions, tu as tout compris. Tu n'as pas compris ces deux notions, tu n'as rien compris. Voilà ce qu'on doit étudier. Voilà le programme. Bereshit Israël. Donc, le Ramchal est venu, Kayadua Sfirat Ayesod, Yachana, El Giloui Malchut Hashem Baolam. Donc il a préparé la royauté. Donc il a écrit comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Shiv'im Tikunim. Il y a 70 arrangements du Zohar, et le Ramchal a écrit 70 Tikunim, la même chose, pour clôturer l'exil. Donc aujourd'hui, la Torah qui correspond à la fin de l'exil, c'est celle du Ramchal, qui est basée sur celle de Rabbi Shimon. Shavua Shvi, la 7e semaine, il est fort quand même notre patron, hein? Il nous a mis dans l'histoire exactement ce que nous devons corriger dans chaque semaine. C'est-à-dire, si je vous raconte maintenant ça, c'est pas pour vous dire, regardez, oh là là, cette semaine, il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Non! C'est que par exemple maintenant, si je suis dans cette semaine-là, dans le Netzach, je dois vivre comme qui aujourd'hui? Comme Moshe Rabbeinu, comme Herzl. C'est-à-dire que je dois prendre sur moi des forces extraordinaires. De d'éternité. Donc de Torah, puisque Moshe c'est la Torah aussi. Donc c'est une semaine qui doit être pleine, chargée de Torah. Herzl c'est quoi? C'est avoir la même figuration intérieure que Moshe, mais dans un monde où tu ne vois rien. Donc, séparer le mot en deux, une montagne d'ombre, Har Shel Tzel, Herzl. Et donc quiconque ne voit pas du tout ça, qu'est-ce qu'il verra? De l'ombre. Et il se dit, ça c'est pas la Géoula. Ça c'est un mécréant. Je ne peux pas dire le Hallel, le Yom HaAtzmaout, parce que Herzl il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors ne fais pas Hallel à Pessah, parce que tous ceux qui sont sortis, c'était des Ovdei Avodah Zara. Tous, Bichlal. Alors de quoi tu me parles? Halalou, Avdei Avodah Zara, ve halalou. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est les anges qui disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu sauves les Hébreux et tu tues les Égyptiens, c'est les mêmes. Et pour ça, tu dis le halal, t'as pas honte. Bashavu Ashvi, donc la 7e semaine, Bolet et Tsfirat Malchut, va apparaître la sphère de Malchut. Hameyucheset le Gilui Malchuto Yitbarach Ba'olam Hazeh. Et comment ça se présente dans notre monde? Yom Yerushalayim. Ah, oui. C'est la Malchut. Comment est-ce qu'on appelle Yerushalayim dans le Lecha Dodi? Mikdash Melech Ir Melucha. Alors Akadosh Baruch Hu a placé Yom Yerushalayim à la 7e semaine. Il est fort, non, notre boss? C'est sympathique quand même, hein? Pour ceux qui croient qu'on a inventé des jours de fête, qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit. Regardez comment c'est arrangé. Lo bichdi davka az chazra Yerushalayim ira kodesh l'idée am Israël kevan sheir hamelucha kayadua. Donc le 7e degré, nous reprenons notre beauté de Jérusalem, notre femme, notre épouse, la malchoute, la royauté. Conclusion. Nire ki achen Hashem poel vahistoria. Je me suis dit, mince alors, Dieu est quand même actif dans l'histoire alors. Ils ont raison ces juifs. Ils ne nous racontent pas d'histoire. Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas possible que Dieu ait fait Médinat Israël. Parce que si c'était le cas, j'aurais dit Hallel. Mais comme ce n'est pas Dieu qui a fait Médinat Israël, il ne faut pas dire le Hallel. Ce n'est pas Dieu qui a fait Médinat Israël, c'est le Palmar, c'est le Hetzel, c'est la Haganah. Alors on ne dit pas mais le Hallel jour de Yom HaAtzmaout. Mais moi je pense que c'est Hachem qui a fait la Médina. Parce que je crois en la Hashgacha Pratit. Kadosh Baruch Hu, il a une Hashgacha Pratit. Tiens, à la française. Eh bien, il a une Hashgacha Pratit pour tout, sauf pour Yom HaAtzmaout. C'est le seul jour où il s'est dit, non, là, il n'y a pas d'Hashgacha Pratit, je sors de l'histoire. Ça veut dire que j'observe l'histoire et j'agis dans l'histoire humaine. Alors, un seul jour dans toute l'histoire de Dieu, il est sorti. Il s'est dit, non, aujourd'hui, je suis au chômage, je ne veux pas. Je ne fais pas partie de ça. C'est comme un idiot, parce que je ne peux pas l'appeler autrement, qui m'a dit, moi, je voudrais bien fêter Yom HaAtzmaout, mais c'est dommage, ça tombe toujours pendant le Homer. al-bril. Et je lui dis, mince alors, Akadosh Baruch Hu, il s'est planté encore une fois, quoi. Il nous a mis Yom HaAtzmaout en plein. Oh là là, mais il ne peut pas nous laisser nous endeuiller tranquillement. Il est obligé de nous mettre des petites joies de temps en temps. Laisse-nous pleurer. Vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est de l'idiotie totale. Derech Hanagata Mishpat. Mishpat, il y a un problème, c'est avec un tête. Tiens, j'ai marqué un taf, donc je corrige, c'est parce que j'ai écrit tout à l'heure. Excusez-moi, c'était rapide. Donc, en faisant la Hanaga du Mishpat, Akadosh Baruch Hu, pour ceux qui ont étudié un petit peu plus en profondeur, le degré de ces sept sirotes qu'on appelle Zeiran Pinzun et la Nukba, ça s'appelle la Nahagata Mishpat. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, conduit le monde avec une équité extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, et bien ça s'adresse à ces sept degrés-là. Hakshura le Sheva Sirot Atartonot Shel Etzachaim. Et donc ce sont ces sept degrés que nous devons réparer à l'intérieur de notre être, nous aussi pendant ces sept semaines. Et donc nous devons travailler chaque semaine selon la qualité intrinsèque de la semaine en question. Mais pour savoir quelle est la qualité de la semaine, il faut que tu commences à savoir de quoi tu parles. Quel est l'attribut de cette semaine et qu'est-ce que j'attends de cette semaine-là? Sinon, je vis tout le temps pareil et le temps passe. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais passer le temps. Et c'est un beau métier, ça. Il fait passer le temps. Ça me tue, moi, ce genre de choses. Il fait passer le temps. Il le prend, il lui dit, vas-y, passe là-bas. Tu peux faire un sketch à la Gad Elmaleh. Hein? C'est un passeur de temps. Il fait passer le temps. Tous les matins, il va un petit peu à droite, il prend du temps, il le fait passer à gauche. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? J'ai fait passer le temps. Et le lendemain, il reprend de l'autre côté. Brûle. Alors, le temps ne passe pas. Le temps est un panier d'action. C'est selon ce que moi je fais pendant le temps qui donne le sens au temps.
Par exemple, le quatrième semaine, qu'est-ce que vous...
C'est pourquoi rentre le quatrième? Quatrième semaine, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'influence du Netzar. Qu'est-ce que c'est Netzar? Ça c'est beau, c'est des traductions en français. Qu'est-ce que ça veut dire Netzar? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Continuité de ce que vous avez commencé. C'est-à-dire que si je commence quelque chose et que j'arrête et que je fais tout le temps pareil, je commence une place, je l'arrête, je commence là-bas, j'arrête, j'ai une relation, je l'arrête, j'ai un truc, j'arrête. Tout le temps tu fais, 2 jours, 2 mois, 3 mois, machin, il a tout fait le mec ou la femme. C'est pas ça une vie. T'as pas de régularité dans ce que tu fais. Tu commences à étudier, tu fais un truc, tu arrêtes. Tu fais un truc, tu arrêtes. Tu fais un truc. C'est pas ça. Un coup, tu t'es réveillé comme un Eliyahu HaNavi, tu étudies 15 heures dans la journée, pendant 2 mois après, tu dors. C'est pas ça. Eh bien, ça, c'est cette semaine-là. Travaille sur ta régularité dans ta vie. Sois tout le temps dans des degrés qui te donnent une assise. Que tu sois solide. La Torah, qu'est-ce que ça? A Torah ozeret la Adam li tradesh bekol rega. Donc la Torah nous aide à nous renouveler parce que chaque fois qu'il y a un changement dans ce degré, moi je me renouvelle. La semaine prochaine, je ne vais pas être le même que cette semaine, sinon j'ai rien fait, chas veshalom. Velimno mikoch hergel lechabel bechayav. Donc qui est le plus grand terroriste de notre vie? L'habitude. Eh oui, comme d'habitude, machin, tu te coucheras, comme d'habitude, on se réveillera, et comme d'habitude, je vais travailler, et comme d'habitude, tu... Ah, Ergel ou Makor Arei Kanut Vashiamum. L'habitude, c'est le vide et la paresse. Quand tu as pris des habitudes et que tu ne sais plus, tu ne fais plus d'efforts. Vous savez quoi? Même rouler sur une route que tu as l'habitude de rouler dessus. Tu ne fais plus attention à rien. Tu fais plus attention à rien. C'est même pas toi qui conduis. Des fois, tu arrives à la maison, tu te dis, mince, qui c'est qui a conduit? J'étais même pas là. J'étais dans un autre monde. Il y a un robot à l'intérieur de moi qui a conduit. Merci, robot. C'est dangereux. Ou metachtesh, donc ses habitudes, metachtesh kol rega chiyoni veofech et maasenu le peulot melachutiyot hamonot hitratshut. Donc ça nous empêche de devenir sans arrêt neuf. Et nous, nous devons être neufs à chaque instant. Car Akadosh Baruch Hu lui mechadesh bechol yom tamid maase bereshit. Toute la création, elle change chaque instant. Et là, je ne veux pas vous faire peur, parce que on a parlé de semaines. Mais dans les semaines, il y a des jours. Mais dans les jours, il y a des heures. Et dans les heures, il y a des minutes. Et dans les minutes, il y a des secondes. Et chaque seconde, elle a un ange qui s'occupe d'elle. Différent, bien entendu. Car un ange n'a qu'une mission. Donc il vient une seconde, il fait un truc, il s'en va. Donc, tac, 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 tac. Il y a des gens qui savent ça. C'est une étude. Qui sont les anges qui gèrent aujourd'hui, ce dimanche? Ben oui. Ça s'appelle le Boker Tov des Mekoubalim. Ils ont une page de 4 mètres de long sur les 6000 ans de l'histoire. Et ils savent chaque jour qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là pour faire avancer le Shmilik. Et pas si, ouais, encore un jour, bon, ça passe pas, hein. Oh là là. Quand est-ce qu'il va faire déjà nuit, hein? Shabbat, il sort tard, hein? Oh là là. Quel... Hein? Eh bien, tout ça, c'est une étude, Rabotai, c'est sérieux. C'est sérieux, tout ça. C'est sérieux parce que c'est comme ça qu'on connaît le patron. Et quand on connaît le patron, ça veut dire qu'on est capable de rentrer dans ses chambres, parce que nous sommes ses enfants, ou son épouse, encore mieux, parce qu'on grimpe, on devient jusqu'à l'épouse de Dieu, et ton épouse, tu ne peux pas lui dire ne pas rentrer dans sa chambre, c'est la même. Et tu peux ouvrir les placards et les tiroirs et faire ce que tu veux. Mais Akadosh Baruch Hu aime qu'on ouvre ses placards et ses tiroirs pour savoir les choses secrètes. Il nous aime parce qu'on connaît ses secrets. Les personnes avec lesquelles vous êtes le plus clair, transparent, c'est censé être, mais c'est pas toujours. Où tu es tout ouvert, il n'y a rien de caché. Tu as confiance totale en lui, en elle. Tu peux tout lui dire, c'est là où tu peux enlever tout ce que ailleurs tu as honte. Toutes tes faiblesses, tous tes fantasmes, tout ça, il y a une personne qui est censée dans ce monde contenir tout ça, est accepté et t'aimer comme tu es. Et ça, c'est la relation qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et pour arriver à ce degré-là, il faut ouvrir tous ces tiroirs. Bon boulot. Toda Rabba. Vous pouvez les garder et continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses dedans. Le la